Merci à tous d'être aussi nombreux. C'est un peu impressionnant de vue de notre côté. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident, que tout le monde est bien installé confortablement pour une petite heure. On est sur une thématique qui s'appelle « Système de surveillance et délation citoyenne, la dystopie est-elle devenue réalité ?» Il nous manque une intervenante qui est Catherine Dufour, qui devrait nous rejoindre très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un avec des grosses lunettes, un chapeau melon qui essaye de se frayer un chemin, veuillez la laisser passer sur le côté, s'il vous plaît. Merci.
Je vois qu'elle a été dénoncée, en fait.
Ouais, elle a été dénoncée. Ouais. Je suis sûr que c'est toi, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Mais nous avons déjà avec nous, tout au fond, Alain Damasio, que l'on présente comme un auteur de science-fiction, qui doit en être bientôt à son troisième roman, dont un chapitre est disponible dans la nouvelle anthologie des Utopiaques de cette année. Nous avons Jack Renag, qui est BDiste, illustrateur, qui produit des choses, notamment dans Fluide Glacial, si je ne me trompe pas. Si tu veux compléter, n'hésite pas à prendre le micro. Nous avons Olivier Paquet, auteur de science-fiction, lauréat de divers prix littéraires, dont Le Verganger l'année dernière, plutôt orienté space-opéra, mais aussi grand technophile, qui pourra nous éclairer sur quelques petites choses, je pense. Et enfin, Jean-Marc Ligny, auteur, a une carrière plutôt fleuve, et qui vient de finir sa petite trilogie avec Semence.
Qui n'est pas exactement fini. Je peux l'annoncer officiellement maintenant.
D'accord.
Une trilogie. C'est une trilogie en
quatre volumes. Toujours voilà. En quatre volumes.
Comme toute bonne trilogie qui se respecte.
Donc, après cette vague présentation, on va peut-être revenir un peu à nos moutons plutôt électriques et par rapport à la réalité. C'est quoi une société de surveillance pour vous? Est-ce qu'on vit dans une société de surveillance à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans ce monde orwellien qui nous faisait tant peur il y a déjà 10 ou 20 ans?
Ben oui, on va répondre oui tout de suite. Et oui, d'une façon avec une extension absolument prodigieuse, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on regarde 84 aujourd'hui, et puis on se dit, bon, 2015, ouais. Pour moi, on est rentré pas seulement dans une société de contrôle, ça, voilà, Foucault l'avait annoncé, Deleuze l'avait annoncé à peu près au début des années 90. Et puis, juste après qu'il annonce ça, 95, on rentre dans l'ère du web, des réseaux, et puis du téléphone portable. Et là, on passe, à mon avis, un cap supérieur, on rentre dans la société de traces, et dans un monde où le moindre acte, que ce soit un acte d'achat, que ce soit le fait de naviguer sur Internet, que ce soit d'envoyer un mail, de passer un SMS, de laisser un message sur répondeur, de se balader avec son véhicule, même de se balader dans la rue avec son smartphone qui nous géolocalise, tous les actes qui auparavant étaient gratuits, ne généraient pas de données, ou en tout cas ne généraient pas un enregistrement ou un archivage, deviennent maintenant potentiellement et même très souvent des actes qui produisent du data. Et donc qui produisent un moyen d'avoir prise sur vous, ou en tout cas de connaître qui vous êtes, ce que vous faites, et de corréler toutes ces petits atomes individuels et ces petites traces individuelles que vous laissez pour vous ensuite pousser à acheter telle ou telle chose. Moi, ce qui me frappe, voilà, je dis j'ai l'impression qu'on est une société de chiens, quoi. Voilà, on est devenus des chiens, quoi. Le technocapitalisme, c'est pas un monde de requins, c'est un monde de chiens. Et ces chiens sont là à renoufler nos culs et notre urine. Et l'urine, c'est simplement de l'urine numérique, c'est du crachat numérique, c'est tout ce qu'on laisse en surfant, c'est tout ce qu'on laisse en envoyant un mail. Et c'est incroyable ce que ce monde a investi pour capturer cette matière-là. Voilà. Et même aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, la plus-value est générée sur nos urines numériques. Voilà. Donc, moi, je suis sidéré, j'ai vu ce chiffre-là l'autre fois, ça m'a encore sidéré. Quand on regarde GAFA, hein, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est 80% des données personnelles mondiales qui sont dans ces quatre boîtes-là, quoi. Et quand on sait que c'est 1600 milliards de dollars de capitalisation boursière, que c'est, voilà, les quatre monstres aujourd'hui, vous comprenez que la richesse du capitalisme actuel, c'est les petits crachats numériques qu'on fait un peu partout et dont on se rend même plus compte, parce qu'on n'a pas l'hygiène de cet autocontrôle-là qu'on les produit, quoi.
Et moi, je pense qu'en plus, Bravo Alain. Et je pense qu'en plus, le monde en est fier. Il suffit de voir dans les séries américaines, par exemple, du type NCIS, les experts, etc., comment les flics de ces séries-là peuvent retrouver, bon, en l'occurrence, c'est des criminels, en général, à partir des plus petits indices, et notamment tout ce que vient de dire Alain, les urines numériques. Et il présente ça comme un grand progrès qui permet effectivement de traquer plus facilement les criminels. Sauf qu'à ce niveau-là, on est tous des criminels, quoi.
Voici Catherine Dufour qui arrive.
Et voilà, c'est ce que précision que je voulais apporter.
Oui, enfin, sur la question de la technologie, quand même un bémol sur la question, qu'est-ce que le contrôle, en fait ? Il me semble qu'il existe des technologies de contrôle qui sont bien plus performantes que les technologies numériques. Historiquement, les technologies sociales, humaines, sont bien plus performantes. Je vais donner deux exemples. Il y en a une qui a été plus ou moins développée, étudiée par un sociologue qui s'appelle Norbert Elias, qui s'est intéressé au comment, en fait, ça s'appelle le process de civilisation. Et qu'une partie de la civilisation est en fait une partie du développement ensuite du capitalisme. Parmi les indicateurs de ce développement, il y a eu quelque chose sur l'aristocratie, c'est l'étiquette. Et l'étiquette, c'est le contrôle des pulsions, le contrôle du corps, le contrôle de nos humeurs, le contrôle de chaque acte de notre corps, de nos muscles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui s'est développé depuis, qui est démarré de l'aristocratie, qui s'est développé dans la bourgeoisie et qui nous, s'est diffusé dans toutes nos sociétés. En Asie, il y a eu des systèmes aussi très puissants. Il y a eu le légisme en Chine ou aussi un autre système que je connais un peu plus, qui est le Koningumi au Japon. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, au Japon, le nouveau régime, le shogunat, a voulu contrôler. Et a voulu contrôler l'aristocratie, mais il fallait aussi contrôler le peuple. Et donc, ils avaient trouvé un système qui était de séparer dans chaque village les gens selon des groupes de 5 familles. Et donc, il y avait une sorte de responsabilité collective qui valait que si l'un des individus défaillait, enfin, manquait à ses devoirs, les autres payaient. Et cette responsabilité collective, c'est quelque chose qui s'est ancré dans la population, qui est devenu un fait culturel, qui s'est ancré et qui continue encore d'avoir des effets sur le Japon. Donc, c'est pour ça que, quand même, un bémol, c'est que la technologie de contrôle social, elle existe bien avant la technologie. Elle est, et je dirais que ce que l'on retrouve finalement avec la technologie, c'est l'ère de la tribu. C'est-à-dire que dans les milieux ou l'ère du village. C'est-à-dire que si vous avez... Moi, j'ai un copain qui vit en Corse. Et que quand vous êtes dans un village corse, autant dire que vous n'avez aucune intimité. Vous savez, dans certains villages, par exemple, jusqu'à il y a encore pas longtemps, je parle pas encore cette fois-ci, on savait qui étaient les avorteuses. Pourquoi ? Parce que les femmes du village regardaient les linges qui pendaient. Et puis elles voyaient, ah bah tiens, il manquait des linges pour les règles, etc. Donc on se disait, il y avait un problème. Et donc on pouvait dénoncer les femmes qui avaient avorté. Donc il y avait ce contrôle-là. Et autre chose sur les limites du contrôle technologique, il y a un élément, c'est par exemple ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, avec la Stasi. La Stasi, vous savez que les enfants pouvaient dénoncer les parents, les conjoints se dénonçaient entre eux, et il y avait un contrôle absolu. Et ce contrôle était gigantesque, sauf qu'il s'est passé un truc, c'est que le problème du contrôle, c'est qui contrôle qui, c'est-à-dire qu'il fallait des gens pour traiter. Et qu'on a, après l'effondrement de la RDA, on a vu des archives avec des milliers et des milliers et des milliers de sacs de données. Évidemment, il n'y a pas de traitement ordinateur à l'époque. Et ça n'a pas empêché la chute du mur. Donc il y a quand même une limite sur ce qui se passe vraiment, même dans des sociétés de contrôle.
Est-ce que tu veux... Oui. Toutes ces questionnements, moi, m'inspirent une réflexion sur parfois la façon dont des événements sont concomitants. Et est-ce qu'il n'y a pas, au moment où nous sommes de plus en plus contrôlés, une forme de docilité de notre part à l'être de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas un fichage des populations qui se fait, je dirais, presque volontairement? Ce que j'observe ces dernières années, par exemple le scandale qui a été révélé par Edward Snowden sur les écoutes de la NSA, ont coïncidé avec l'avancée exponentielle de Facebook. Donc on se retrouve dans une situation où on va reprocher à un organisme gouvernemental américain de nous écouter, et simultanément on lui fournit les millions de fiches de données personnelles qui sont nécessaires, et ça se fait avec une espèce de placidité, c'est-à-dire qu'on peut dans le même quart d'heure se scandaliser de ce qui s'est produit aux États-Unis, notamment à la suite du 11 septembre, et donc de ce qui a été mis en place le Patriot Act, qui est une série de mesures qui sont des véritables atteintes à la liberté individuelle. Et deux minutes après, on est sur Facebook et on va dire des choses très plus ou moins intimes, mais qui seront effectivement, comme tu disais tout à l'heure, commercialisées ensuite et exploitées. Donc ça m'interroge toujours, c'est des moments dans l'histoire humaine où il y a une concomitance de phénomènes qui coïncident. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir.
Oui, bonjour, désolé pour le retard. C'est quand c'est la société de contrôle, là, j'ai encore checké mes mails, et quand je vois combien de mails enlarge your penis je reçois, je me dis que les big data sont pas encore super bien étudiés. Maintenant, je m'intéresse beaucoup aux soucis des big data, et c'est absolument terrifiant ce qu'on peut savoir sur nous. Je crois que rien que sur Facebook, au bout de 500 likes, le profil qui ressort de chacune de nos personnalités est plus précis que pourrait établir un conjoint. Et il brasse des téraoctets de données, parce que tout ce que vend Amazon, par exemple, c'est juste pas ça qui leur apporte des sous. Ce qui leur apporte des sous, c'est les téraoctets de données qu'ils brassent, où tout est pris en compte, depuis le prix au mètre carré de l'endroit où vous habitez jusqu'à la qualité de votre orthographe. Non seulement ce que vous commandez, mais en plus que vous renoncez à commander. Les temps de connexion et durée de connexion, évidemment, on sait exactement quel est votre abonnement, combien vous le payez, quel est votre équipement informatique et combien il coûte. Et je pense que ça va. Dès qu'ils seront ils, ceux qui achètent les brokers en données personnelles, et c'est ceux qui leur rachètent derrière pour s'en servir. Dès qu'ils sauront s'en servir de façon judicieuse, ce qui n'est pas forcément pour demain, parce qu'ils sont probablement encore plus bêtes que méchants, ça deviendra véritablement problématique pour arriver à dégager des espaces de liberté. Et je voulais citer là quand même une somptueuse réussite de l'informatique française. Il y a une société d'informatique française qui a vendu à Kadhafi un système d'espionnage de l'Internet libyen, et qui a permis à Kadhafi, en son temps, de traquer, emprisonner, torturer et tuer pas mal d'internautes. Et quand on a demandé à l'informaticien en chef de la société française ce qu'il pensait de sa vente, il a répondu: écoutez, si je vous vends un crayon et que vous écrivez une lettre de menace avec, c'est quand même pas de ma faute. À quoi vous pouvez lui répondre: oui, mais enfin, si vous me vendez un char d'assaut, vous savez bien que c'est pas pour faire les moissons. Voilà. Et donc, quelquefois, on se pose la question: est-ce qu'il ne faudrait pas, de temps en temps, pendre un informaticien avec les tripes d'un dictateur?
Justement, selon vous, est-ce qu'il y a des moyens de résistance où on est tous, à un moment ou à un autre, obligés de se soumettre à ce système de surveillance sur lequel on est très... très contraint, en fait? On se connecte à Internet, nos historiques sont conservés, on est sur Facebook, toutes nos fiches sont scrutées, soit par des petits mouchards espions, des algorithmes. Mais est-ce qu'il y a encore des moyens de résister?
Moi, je trouve que ce qui est assez étrange, voire schizophrénique dans notre monde actuel, c'est que, effectivement, dès qu'on se connecte, dès qu'on a un appareil informatique quelconque, un portable, un ordinateur, n'importe quoi, une watch et tout. On sait pertinemment qu'on est surveillé. On sait pertinemment que toutes nos données les plus personnelles et intimes vont être au moins stockées, sinon exploitées. Néanmoins, on continue joyeusement d'aller sur Facebook, Twitter et tout, de raconter notre vie privée, d'étaler nos petits malheurs, de développer toutes nos convictions sociales et politiques, comme si, soit comme si on s'en foutait d'être contrôlé, quoi, comme, ou alors comme si, à la limite, on aimait ça. Ou on vous laisse dire, vous voyez, nous, on est honnête, on n'a rien à cacher, quoi. On a tous quelque chose à cacher, ne serait-ce qu'au pouvoir, en place, quoi, d'une certaine façon. Donc, la meilleure façon de résister, ce serait à la limite de ne pas se connecter du tout. Mais dans ce cas-là, on se coupe de la société telle qu'elle est. Dans ce cas-là, on va élever des chèvres dans les alpages. Et encore, on fait gaffe que les cloches des chèvres ne soient pas connectées. Je ne sais pas s'il existe. Ou alors, on est un super hacker et on parvient à naviguer anonymement parmi cette mer semée d'écueils et d'embûches. Mais tout le monde n'est pas super hacker. Donc, quelque part, dans la mesure où on accepte d'avoir une connexion, par quelque biais que ce soit, d'une certaine façon, on sait et on accepte, ne serait-ce qu'en cochant la case « j'accepte » sur tout abonnement, téléchargement de logiciels et tout ça. Combien d'entre vous ont coché cette fameuse case « j'accepte » sans jamais lire ce qu'ils acceptaient au juste? Donc, juste pour télécharger le logiciel ou avoir accès à l'abonnement. Et donc, on accepte. Voilà. On accepte d'être contrôlé. On se dit, de toute façon, nous, on n'est pas des terroristes. On n'est pas des militants d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ou bien, si on l'est, on assume. La NSA ne viendra pas me chercher chez moi. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte. On se dit, bon, tout ça, de toute façon, il y a tellement de teraoctets de données que, à la limite, personne ne les lit, tout ça est stocké dans des machines qui réagissent qu'à des mots-clés. Et puis, on ne se rend pas compte pourquoi on est envahi de pubs ciblées, quoi. Et qui vous connaissent mieux que vous-même, à la limite, quoi. Et qui connaissent vos désirs avant même que vous ayez pensé à vos désirs.
Il y a quand même, ce que tu dis me fait penser à un truc, c'est qu'il y a un élément important, à mon avis, c'est que. Ce que ça met en évidence, c'est que les frontières entre ce qui est le privé et le public, c'est quelque chose de très qui varie beaucoup, et qui varie beaucoup dans l'histoire. Pour reprendre le XVIIIe siècle, par exemple, il était assez commun qu'on envoie ses bulletins de santé à ses proches pour qu'ils viennent vous rendre visite. Donc on considérait pas que les problèmes de santé étaient quelque chose de fondamentalement privé. Donc, ce qu'on voit avec Internet, c'est que ces frontières évoluent beaucoup. On parlait de résistance, ça me fait penser à quelque chose. Il y a eu un fait, moi, que je trouve marquant sur quelle est la limite. Blizzard, qui est donc société de jeux vidéo, qu'on connaît surtout pour World of Warcraft, un jour a décidé que, pour ce qui s'agissait des forums et autres, et même dans le jeu, que finalement, ça serait plus pratique que les joueurs utilisent leur nom réel. Et donc que les gens se connecteraient sous leur nom réel et pas sur celui d'un avatar. Ils ont dit, bah oui, ça va être plus simple. Puis en plus, ça évitera parce qu'il y a des gens qui ont des propos homophobes, sexistes, etc. On pourra les repérer, ça sera plus simple, etc. Donc ça sera plus simple. Et là, ils se sont pris vraiment un retour. Vraiment, il y a eu une résistance très forte avec des choses vraiment très fortes du style des joueuses de World of Warcraft disaient, mais moi, j'ai... Mon personnage, c'est un homme sur World of Warcraft. Et je ne veux pas être importuné par d'autres joueurs qui vont venir, parce que le harcèlement dans les jeux vidéo, c'est quelque chose de très très important. Donc je veux pas. Donc mon avatar, c'est quelque chose d'important. Et ce que tu dis, Jean-Marc, sur pourquoi on accepte, il y a que aussi quand on se connecte, finalement, d'une certaine manière, on se conçoit toujours comme un avatar sur Internet. Ce n'est finalement pas totalement moi tout en étant moi, avec des frontières très floues. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que ces frontières sont floues, elles changent, donc on laisse des traces en disant que finalement ces traces-là, elles ne sont pas vraiment moi. mais il y en a certaines qui sont moi. Et donc, on est dans un flou, et c'est pour ça qu'on les laisse aussi. Parce que quand on se connecte, on est un peu cet avatar.
Mais il y a des traces qu'on accepte de laisser, et celles dont on n'est pas conscient qu'on les laisse aussi.
Ah oui, je suis d'accord. Mais justement, pourquoi mais Internet, on est aussi, moi je trouve très marquant, tu parles des traces qu'on voit, moi je trouve justement par rapport à la technologie, on a vu, moi je trouve ça très émouvant, c'est-à-dire avec tous les migrants, les réfugiés, pour qui le smartphone est un élément vital. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est pas, évidemment, ils ont des traces, mais c'est la connexion avec leur famille, les gens qu'ils abandonnent et autres. Évidemment, ils sont fichés. Enfin, là, le problème, c'est que on parle d'être fichés. Le problème, c'est que ils vont partout et qu'on n'arrive pas à les même malgré le fichage. Hein. Bon, ils arrivent à se déplacer. Ce qui est intéressant, on est dans une ère technologique où les gens arrivent encore à se déplacer. Mais bon, on voit que cette technologie, elle est vitale pour eux. Ils peuvent pas l'abandonner parce qu'il y a qu'avec cette technologie qu'ils sont en contact humain avec leur famille, leurs ressources. Donc, on est dans une ambiguïté aussi là-dessus.
Ouais, pour moi, il y a deux sujets, quoi. Il y a le premier sujet, effectivement, qui est très important, c'est quelle est l'économie de désir derrière qui fait qu'on accepte de publier ces données et de les faire. Et c'est vrai qu'il y a des syndromes d'exhibition, il y a la volonté de se présenter, de se mettre en valeur, il y a ce syndrome du masque, comme tu dis, qui est très juste, je pense. C'est-à-dire qu'on se croit toujours protégé ou derrière un avatar, alors que c'est plus du tout le cas, il y a des paresses, il y a des commodités, il y a des conforts, etc. Moi, je voudrais juste répondre à ta question, effectivement, sur la résistance, que bon, voilà, moi, c'est un enjeu, effectivement, majeur, je trouve, à la fois en tant que citoyen et puis en tant qu'écrivain de SF, où on doit, à mon avis, essayer d'endosser un peu ces sujets. Moi, j'avais essayé, hein, une fois, dans un article, de répondre, en tout cas, d'essayer de poser des réponses. Je vais vous les donner un petit peu, hein, tant pis, ça fait un peu catalogue de la redoute de la résistance mondialisé, mais bon, première chose très simple, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement empathique avec les lanceurs d'alerte, quoi. Je crois qu'il faut qu'on défende, soutienne, encourage et protège les lanceurs d'alerte. Ce qu'on a vu sur Snowden, c'est absolument essentiel. C'est eux qui révèlent des choses clés qu'il nous faut comprendre, à quel point une surveillance peut être étendue et mondiale. Et on voit qu'il y a des attaques très fortes. Obama a énormément attaqué Snowden. Ils sont pas protégés, ils sont peu protégés. Donc, être derrière eux. Ça, c'est un des premiers points. Et même à titre, et là, je parle aux ingénieurs, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, etc. Quand vous êtes témoin de ça, quand vous êtes acteur de ça, vous posez la question à titre individuel. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas révéler ça? Est-ce que je peux pas le donner? Est-ce que je peux pas amener au grand jour certains types d'actions comme ça, qui sont en fait des actions absolument dégueulasses, quoi. Hein, comme ce que racontait Catherine sur l'informaticien qui a vendu à la Libye le système. Ensuite, il y a un deuxième type de lutte qui est très simple et qu'on peut tous mettre en œuvre, c'est vraiment pour moi la résistance individuelle. J'appelle ça une hygiène de la trace, quoi. C'est-à-dire, je vous ai parlé d'urine et de crachat numérique, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, si vous allez sur un site comme par exemple qui s'appelle contrôle-tes-données.net, il vous explique exactement sur quel navigateur naviguer, c'est-à-dire Firefox, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme pare-feu, comme logiciel pour essayer d'anonymiser au maximum les traces que vous laissez sur le net, quel type de messagerie utiliser. Quand vous envoyez des vidéos, vous êtes sur Skype, quel logiciel il faut utiliser pour contrecarrer ça, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont possibles et qui permettent de limiter au maximum les traces numériques que vous laissez. Et ça, j'avoue qu'on le fait très peu, ne serait-ce que sur le moteur de recherche. On est tous sur Google parce que ça va vite, parce que c'est rapide. Ben, il existe Xquick, il existe Startpage, il existe DuckDuckGo. Il existe comme ça des logiciels qui ne laissent pas de traces et qui ne permettent pas d'orpailler vos recherches. Donc là-dessus, mon avis, hygiène maximum. Ensuite, bah, y a le hacking. Et ça, on a besoin des hackers, on a besoin d'être proche de hackers, on a besoin d'avoir des amis hackers, on a besoin nous-mêmes de s'y mettre quand on est capable de le faire, d'apprendre à coder, d'apprendre à développer et d'apprendre à récupérer le pouvoir sur la machine, sur les logiciels, sur les algorithmes et à se protéger. Donc ça, on passera pas en dehors des hackers. Les hackers sont primordiaux. Après, il y a l'aspect sociétal et politique habituel, c'est-à-dire qu'il faut polariser les résistances collectives. Ce qui est problématique pour nous, c'est quoi ? C'est qu'on encaisse à titre individuel, on est surveillé à titre individuel tous, mais on se réunit très peu ensemble pour lutter contre ça, quoi. Donc, united we stand, divided we fall, et il faut l'appliquer aussi au monde Internet, et il faut mettre en place peut-être des occupations dans les entreprises type Google, Facebook, Amazon, etc. Peut-être qu'il va falloir commencer à se poser la question d'attaquer les data centers, de les saboter, de les détruire, de créer des blackouts électriques. Peut-être qu'il faut se poser cette question, même si maintenant c'est très décentralisé la gestion des serveurs. Ça peut être intéressant quand même de se demander qu'est-ce qui passe dans ces fermes de serveurs, qu'est-ce qu'on peut faire. Bref, il y a plein de nouvelles techniques de lutte politique qui sont à mettre en place, à mon avis, là-dessus. Et puis après, il y a une question, je dirais, plus spirituelle, plus mentale ou plus virale, qui est que notre rapport à Internet, on l'a conçu depuis le début comme quelque chose d'extrêmement libre. Internet est venu, nous a libérés, nous a apporté énormément de choses, a été une invention absolument prodigieuse. Et on a du mal, et notamment nous, Anard, à considérer que cet espace a été récupéré, que cet espace est maintenant un espace de contrôle quasi exhaustif. Bah, il faut avaler ça, il faut l'avaler et changer ses attitudes et faire changer celles des autres. Donc il y a une dépollution, j'ai envie de dire, intime à trouver dans ce rapport Internet. Notamment, moi, je ne suis pas sur Facebook, je ne veux pas y être. Je pense que Skype, il ne faut pas l'utiliser. Je pense que Google, Gmail, etc., il ne faut pas l'utiliser. Voilà, il y a tout un ensemble de pratiques qu'il faut mettre en place et accepter, quoi. Donc en gros, voilà, je vous le fais rapidement, mais... moi, je terminais cet article que j'avais fait en disant, voilà, j'ai pas envie que des robots, juste des robots, lisent mes lettres d'amour. J'ai pas envie de passer 701 000 heures en garde à vue, parce que c'est la durée d'une vie de 80 ans, c'est 701 000 heures. Et là, j'ai juste l'impression que je suis en garde à vue permanente et ça me fait chier. Voilà.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, et je crois qu'on est tous d'accord. Mais moi, ce que j'ai cru remarquer dans la nouvelle génération, c'est qu'ils développent leurs propres anticorps. La nouvelle génération, moi, elle est représentée par mes deux fils. Et je les ai très beaucoup bassinés en leur disant, quoi que tu fasses sur Internet, tu donnes jamais ton nom, tu donnes jamais ton prénom. Et encore moins ton adresse, tu te méfies de tout le monde, tu ne télécharges pas, et si tu as envie de montrer tes fesses sur Internet, tu peux le faire, mais tu mets un masque, et je leur ai mis des masques à côté du PC. Voilà. Très joli masque. Et là, ils m'ont regardé comme si je descendais, non pas de la Lune, mais du 19e siècle, et ils m'ont dit, enfin, maman. Alors, d'abord, déjà, plus personne va sur Facebook. Alors, ils ont un compte Facebook pour un sport, un compte Facebook pour un autre sport, mais un compte Facebook particulier pour raconter sa life, c'est vraiment un truc de vieux. Ils changent de boîte mail tous les deux jours. Le téléchargement, alors là, c'est antédiluvien. Tout ce qui... voilà, la musique, c'est sur Deezer. Les films, c'est en streaming. Et finalement, je me suis aperçue qu'ils avaient développé des anticorps et qu'ils étaient d'une traçabilité bien moindre que la mienne, parce qu'ils papillonnent en permanence. Et une fois, il y avait eu une espèce de scandale avec des parents qui avaient retiré leurs enfants de l'école parce qu'on allait leur apprendre la théorie du genre, un truc abject, des médecins juifs vont venir leur apprendre à se masturber, un truc immonde. Et il y avait des interviews de parents qui disaient, oh, bah oui, on l'a lu sur Internet, si c'est Internet, c'est que c'est vrai. Et j'ai lu ça à mes fils, et là, ils ont hurlé de rire. Parce que pour eux, si c'est sur Internet, c'est que c'est faux. Donc moi, j'ai une certaine confiance de la génération suivante pour avoir très très vite, très très jeune, décrypté toutes sortes de difficultés, toutes sortes de pièges, et aller de l'avant de façon beaucoup plus efficace dans la non-traçabilité que moi.
J'avais une petite question concernant plutôt la fiction, du coup, puisque vous êtes quand même tous plus ou moins auteurs de différents médiums. La science-fiction, c'est quand même une étiquette, un genre qui a pour vocation, pas première, mais dans certains de ses buts, la critique. Est-ce que c'est encore écrire de la science-fiction que de critiquer la société de contrôle, et comment on fait pour en écrire, du coup? Je pose une colle, hein. Puisqu'on vit quand même dans un monde assez éloigné au final.
Bah, je dirais que déjà peut-être le propre et le credo de l'auteur de SF, c'est d'avoir pris conscience de ça et de le montrer d'une façon ou d'une autre dans ses romans. Dans la mesure où il va parler effectivement d'autre chose que d'extraterrestres qui débarquent, et encore. Après, de la façon dont il traite, il suffit d'extrapoler, tout simplement, ce qui est ce que sait faire tout auteur d'SF, d'extrapoler à partir du présent. et puis d'imaginer que tous les objets connectés qu'on nous promet pour bientôt, voire pour déjà aujourd'hui, les vêtements, les chaussures, les lunettes, les montres, tous les gadgets qu'on pourra avoir, et évidemment toute la domotique de la maison, tout ça servira d'instrument de contrôle. Et donc, on peut qu'imaginer que tout ça peut effectivement servir à une dictature, que je dirais même pas une dictature à l'ancienne, façon 1984, parce que c'est encore une dictature avec une volonté. Moi, je pense plutôt à une dictature automatique. Que là, vers quoi on se dirige ? On se dirige vers une espèce de dictature automatique qui n'est générée par personne, qui n'est décidée à la limite par personne, ou seulement sous forme de grandes lignes, une consigne générale et bureaucratique, et qui va fonctionner sur des algorithmes, des mots-clés, des robots de recherche, etc. Et qu'on peut se retrouver, à la limite, en état de suspicion, voire de culpabilité, un état décidé par des machines simplement parce qu'on est sorti d'une norme. Et que ces machines, selon certains critères, vont décider qu'on est sorti d'une norme. Alors, à partir de quel moment va intervenir le contrôle humain, à mon avis, plus il sera lointain, et plus ça va craindre, quoi. Et plus on va risquer d'être soumis à des espèces de... Ce ne sera plus des erreurs judiciaires, ni des erreurs bureaucratiques, mais des jugements informatiques sans volonté et sans décision. Moi, ça m'inquiète un peu. Bah, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, non, mais bien sûr, mais le truc, c'est que il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est que il y a d'une part la question des humains et des machines. C'est-à-dire que si on regarde... Bon, je m'intéresse plutôt pas mal à tout ce qui est la question du pouvoir politique, de l'action politique. Et il y a quand même un truc, c'est qu'en sciences politiques, par exemple, nous ne savons pas ce que gouverner signifie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est pas un terme, c'est pas un concept de sciences politiques qui est défini. Alors on a des termes comme la gouvernance ou l'action publique, etc. Mais il y a des chercheurs assez malins qui ont compris que tout ça, comment on part d'un problème pour arriver à une décision, était du domaine un peu de l'anarchie. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, par exemple, une structure des institutions comme l'éducation nationale et qui montre que le rapport entre les problèmes et les décisions et les solutions n'avait parfois aucun rapport. Donc il y a des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle des institutions anarchiques. Donc il y a aussi la question de l'humain politique qui est à mon avis souvent beaucoup plus incompétent, beaucoup plus chaotique qu'on imagine, beaucoup moins structuré qu'on l'imagine. Et ensuite la question des machines, le rapport entre ce que va faire les machines et ce que va faire un humain, je suis toujours assez partagé dans la mesure où si on regarde par exemple, nous laissons nos vies entièrement, quasiment dans les mains d'une machine quand on prend l'avion. Et que l'essentiel, voire les trois quarts des accidents d'avion sont liés aux facteurs humains. On parle des voitures, par exemple, Google veut faire des voitures automatisées. Et que le problème n'est pas tant de créer la voiture automatisée, le problème c'est qu'il y a des humains autour et qu'ils sont imprévisibles. S'il n'y avait finalement dans les rues que des machines, ça serait assez facile de faire des voitures autonomes. Le problème c'est qu'il y a des humains qui sont imprévisibles. Donc, qu'est-ce qui est mieux entre la machine... Là, on est en train maintenant d'avoir de la chirurgie par ordinateur pour éviter des erreurs de chirurgien, voire même les humains ne peuvent même pas intervenir. Donc, c'est, à mon avis, extrêmement complexe le rapport entre la machine et l'humain. Qu'est-ce qui est plus performant? En qui on peut avoir confiance? Quand vous êtes dans un avion, on a confiance dans l'humain et en même temps, si on regarde les statistiques, les machines font moins d'erreurs que l'humain. On est dans l'indéterminé. Je n'ai pas la solution. Selon les cas, c'est pas, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas d'a priori, on ne peut pas fixer ça de ce qui est. Parfois, il vaudrait mieux que ce soit les machines qui s'en occupent plutôt que les humains.
Mais ce que je voulais dire, ce n'était pas une charge contre les machines, ouais. En fait. Effectivement, je dirais qu'une machine peut instaurer une forme de dictature par le contrôle tout aussi efficace qu'elle peut instaurer une forme de guidage de plan de vol pour des avions et faire atterrir et décoller des dizaines d'avions dans un espace réduit et dans un laps de temps réduit sans qu'il y ait aucun crash. C'est d'une efficacité dans la mesure où les programmes, les logiciels, les cerveaux moteurs, les routines, etc. sont rodés efficaces, ça tourne tout seul. Et moi, je pense que des algorithmes de contrôle peuvent effectivement tourner tout seul d'une façon tout aussi efficace et sans plus d'état d'âme. Après, qui contrôle, c'est contrôle. C'est l'humain qui est derrière. C'est l'humain qui a instauré ça à la base. Les machines, elles ne vont pas décider toutes seules de contrôler les humains. Ça, c'est de la science-fiction des années 50, je dirais. On n'en est plus là, quoi. Les machines ne décident pas toutes seules. Il y a toujours des humains derrière. Mais les humains vont mettre en route, vont générer des routines qui, après, peuvent s'auto-alimenter et voire échapper à leur propre contrôle. Qu'est-ce que Google, Amazon et tout font de ces méga tera octets de données qu'ils engrangent dans des serveurs qui bouffent des quantités d'énergie incroyables? Ils en font quoi à part de la pub?
C'est l'essentiel de leurs revenus, oui, c'est ça. Hein. C'est la pub et l'essentiel des revenus de Google. Google ne fait rien en tant que tel. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, moi, j'ai toujours l'impression quand même qu'il ne faut pas... je parle sur l'aspect politique. Il ne faut pas voir maintenant dans l'action politique plus qu'il y a quand même beaucoup de... On gère le chaos, c'est ça, en fait. Et que l'humain politique n'est pas vraiment quelqu'un... J'arrive pas à imaginer... En ayant pas mal étudié ce qu'est l'action publique dans nos pays occidentaux non-dictature, j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent pas être dépassés par leur propre inertie, leur propre incompétence, le fait qu'ils sont dépassés. On est passé d'une vision du politique avant les années 90, hyper hiérarchique, d'une vision totalement verticale, à ce qu'on appelle maintenant la question de la gouvernance avec une vision totalement horizontale. C'est-à-dire, c'est ça, l'action publique sur nos territoires, c'est des conceptions extrêmement horizontales et de gestion de la complexité, et que finalement, nos pauvres élus, ils maîtrisent que dalle. Et que les individus font des choses bien plus intéressantes, bien plus innovatrices que le monde politique et que nos élus. Donc, et ça échappe. J'aime bien, il y a un politiste qui s'appelle Pierre Favre qui a fait un truc sur l'action politique et qui a parlé d'une action en fer à cheval. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait une loi, l'individu politique, le centre politique crée une loi. Et puis, au fil du temps, cette loi, elle est intégrée dans une institution, imaginez, donc l'éducation nationale, la police, etc. Et ce sont les acteurs qui la mettent en place et qui vont la modifier. Et qui vont la mettre dans une direction qui n'avait sans doute rien à voir avec la loi de départ. C'est des choses qui sont connues depuis très longtemps, c'est-à-dire Max Weber, Durkheim, des sociologues du 19e siècle, avaient déjà vu qu'un homme politique fait une loi et que les résultats n'ont strictement rien à voir avec ce qui était envisagé au départ. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans les individus, dans les citoyens, dans le fait qu'ils vont réinterpréter les décisions politiques et en faire ce qui les intéresse beaucoup plus que ce que l'État ou les puissances publiques veulent faire.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je crois que dans cette constance de l'existence à l'heure actuelle de l'humain, avant que les machines ou autre chose prennent le pouvoir, ou une forme différente d'intelligence, il y a tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on va être rassuré par cette imprévisibilité de l'attitude de l'espèce humaine, et en même temps, il est impossible de ne pas être inquiet sur ce qui pourrait survenir dans des situations de crise, des situations de crise qui sont déjà très proches de nous. Moi, je travaille sur un sujet, donc c'est pas du tout pour Fugue Glaciale, puisque c'est un sujet qui concerne des doctrines militaires. Et c'est quand même intéressant de constater que les deux innovations récentes qui ne sont pas été créées pour le contrôle de l'individu, mais qui aboutissent à une forme de contrôle de l'individu, enfin, on pourrait se demander si elles n'ont pas été créées pour ça, c'est-à-dire le téléphone portable et Facebook fournissent les deux éléments qui étaient les éléments clés dans une opération militaire qui a eu lieu pendant la guerre d'Algérie, qui était, après le putsch, le contrôle de la Casbah. C'est-à-dire on cherchait à obtenir deux informations, c'est que font les individus et où sont-ils. Aujourd'hui, Facebook répond à la première question et le téléphone portable et la géolocalisation répondent à la deuxième. Donc c'est difficile de ne pas imaginer ce qui pourrait être fait si une situation de crise, mettons par exemple après une attaque terroriste, donner lieu à des mesures de ce type, sachant que cette doctrine militaire, qui a été l'œuvre d'un officier qui s'appelait Lachaud-Roy, a ensuite été vendue à l'étranger, appliquée dans d'autres situations de crise, comme au Vietnam, comme en Irak en 2003, où le film La bataille d'Alger était projeté aux soldats américains. Donc il y a quand même aussi, dans l'humain, il y a une distinction qui reste, qui me paraît importante, c'est entre le civil et le militaire. Et le militaire apportera des réponses qui seront forcément militaires, donc armées, en disposant d'une technologie que la société civile lui aura fournie avec ses nouveaux moyens. Donc c'est difficile de ne pas craindre ce qui pourrait se passer. Après, pour être un peu plus optimiste, l'imprévisibilité de l'humain est rassurante. Moi, je me souviens qu'après, c'est un peu de l'humour noir, mais après le 11 septembre, on a constaté que énormément de conversations avaient été captées avant que les attentats se produisent, mais que la CIA ne disposait pas d'interprète en arabe suffisant pour décrypter. Alors ça, c'est amusant. Il y a toujours ce côté que ça marche pas encore assez bien pour être complètement terrifiant. Aujourd'hui, par exemple, les publicités ciblées, qui est donc le fond du marché des métadonnées, nous amène quand même à des situations ridicules. C'est-à-dire qu'on va acheter une paire de chaussures et pendant 3 semaines, on reçoit des publicités pour d'autres paires de chaussures, alors qu'on est passé à autre chose. On a envie d'acheter un abri de jardin et plus une paire de chaussures. Donc, ils sont pour l'instant encore pas suffisamment, je pense, au point pour nous faire peur. Ce qui m'effraie, moi, c'est la situation où, effectivement, le contrôle des populations sera justifié par une crise grave. C'est-à-dire, maintenant, ce qui s'est passé, donc je reviens là-dessus, après le Patriot Act. C'est-à-dire, il s'agissait de savoir si vous n'étiez pas un terroriste et où vous êtes à un moment donné. Voilà. Et pour ça, les moyens techniques sont déjà à l'œuvre.
Moi, ce qui m'effraie complètement, c'est le côté complètement larvaire et somnolent et tranquille avec lequel on accepte tout ça. Parce que quand même, là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de potentialiser un contrôle absolu. On est en train de potentialiser une dictature qui peut arriver demain, quoi. C'est-à-dire que En potentialisant comme ça l'orpaillage des données personnelles et un niveau de corrélation hallucinante, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, on sort de 70 ans sans guerre, donc on regarde ça avec un côté un peu tranquille. Là, je suis dans mon fauteuil, c'est cool, vous êtes dans votre fauteuil, on est bien, tout va bien. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'un pouvoir religieux, un pouvoir dictatorial, un pouvoir économique, des groupuscules, du terrorisme, peu importe le pouvoir qui va récupérer ça, à partir du moment où il décide de l'empoigner, c'est le cas de la Libye, il peut faire absolument ce qu'il veut. Et je veux dire, les rafles de juifs, c'est une aimable plaisanterie par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui en finesse de récupération des populations à risque, quoi. Et c'est comme ça que ça bosse, quoi. Donc moi, ce qui me tue, c'est de se dire « Oh, c'est pas si grave, regardez ce qu'ils en font, regardez les algorithmes de publicité personnalisée, ils sont pas encore super au point, machin. » Mais on s'en fout, le problème, il est pas là, quoi. Le problème, c'est qu'on a mis en place un immense système de collecte de données et qui est prêt, qui est potentialisé et qui pourrait être appliqué par n'importe quoi. C'est là, voilà, c'est là. Et viendra un jour, et peut-être très rapidement, un pouvoir capable de l'utiliser, qui va vouloir l'utiliser, et qui aura le pouvoir de l'utiliser parce que la situation, effectivement, sera suffisamment angoissante, terroriste ou artificiellement fabriquée comme terrorisante pour qu'on puisse le faire. Et ça, bordel, moi, ça me fait... Voilà, je veux dire, c'est... Et quand on dit ça, on se dit, ouais, putain, c'est vrai que les auteurs de SF, c'est des Cassandres. Ah, ils adorent ça, ils s'éclatent dans le catastrophisme, le post-apo et tout. Mais là, moi, je vous parle en tant que citoyen, je ne parle pas en tant qu'auteur des SF. Ça ne m'a jamais intéressé en tant qu'auteur des SF, ce type de truc, quoi, tu vois. Le post-apo, ça ne m'a jamais touché, quoi. Mais là, c'est juste du concret. C'est potentialisé, voilà. C'est potentialisé à un niveau jamais atteint. Et la technologie de contrôle n'a jamais été aussi élargie, aussi précise. Moi, quand j'ai lu les révélations de Snowden, ce qui m'a scié, c'est le degré de précision, justement, quoi. C'est-à-dire que les fameux X-Keyscore, etc., c'est-à-dire les logiciels qui sont des sortes de Google, des sortes de moteurs de recherche, qui peuvent aller chercher qui consultait le site, à quelle heure, comment, qui peuvent surveiller une IP personnalisée, qui peuvent surveiller des types d'échanges de mails, qui peuvent surveiller une boîte, qui peuvent surveiller un groupe de gens. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça de façon massifiée, vous pouvez faire ça de façon individualisée, vous pouvez faire ça de façon sur une tribu. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les possibilités, quoi. Voilà. C'est un pouvoir individualisant et massifiant, à la fois. Et ça, bah, je suis désolé. Je veux dire, quand avant on avait les caméras de surveillance, moi je peux vous parler de mon roman La Zone du Dehors, j'étais super fier en 95 de le sortir et de créer les tours panoptiques du citoyen dans lesquelles les citoyens rentraient dans la tour panoptique et pouvaient surveiller la totalité de la ville. Mais j'avais pas compris un truc évident, c'est que la tour panoptique, on allait l'avoir dans la poche, quoi. Et que non seulement on pouvait filmer, prendre des photos, géolocaliser n'importe qui, mais n'importe qui allait pouvoir rentrer dans notre cellule parce qu'elle est là, dans nos mains, et nous suivre. C'est-à-dire qu'on allait avoir un collier électronique permanent, quotidien, alors qu'on était hyper fiers de dire on fait sortir les prisonniers des prisons et on leur donne un collier électronique. Mais le collier électronique, on l'a accepté nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une société de contrôle, oui, immanente. Voilà. Et c'est ça que moi, j'avais pas compris, pas trouvé, pas intellectuellement trop limité pour le faire. C'est-à-dire que j'étais encore sur cette espèce de transcendance. On va mettre de plus en plus de caméras, on va mettre de plus en plus de flics, etc. C'est pas le problème. C'est complètement immanent. C'est venu de nous, quoi. Voilà. Et maintenant, on contrôle nos femmes en lisant leurs mails, on contrôle nos filles. Le patron, il contrôle son futur employé. Le futur employé, il googlise son patron. Voilà, on est dans cette espèce d'intra-contrôle, d'auto-contrôle, de réciprocité immanente du contrôle dans lequel on est tous baignés, quoi. Et on ne se rend pas compte à quel point on vit à travers ça, et c'est poreux en nous, c'est pulvérulent en nous, comme ça. Donc voilà, moi ça me terrorise au sens où... C'est pas que ça me terrorise, j'aime pas les termes terroriser, avoir peur, machin, j'en ai rien à foutre, en fait, de ça. Je veux dire, j'ai simplement le sentiment que notre vitalité est atteinte, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un mode de vie qui est laid, qui est moche, qui est fondé sur une sorte de voyeurisme un peu pourri, de laideur, de délation, d'autosurveillance, d'entre-surveillance. Et c'est ça qui est... Et je crois pas qu'on doit aimer ça. Enfin, je crois pas qu'on doit regarder ça avec somnolence et tranquillité, quoi. Voilà.
Ouais, c'est jamais pas facile de passer derrière Alain. Alors moi, j'ai pas peur du tout de la technologie parce qu'une machine, elle fait jamais que ce qu'on lui dit de faire, même si c'est très complexe. Un ordinateur qui est capable de faire atterrir 25 avions en une demi-heure dans un mouchoir de poche, il se mettra jamais à trier des bananes. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'homme, parce que c'est vraiment la machine buggée. Nous, on avait un cerveau qui était conçu pour faire la distinction entre un ananas et une banane. Et tout d'un coup, on s'est mis à s'intéresser à la vie, l'univers, le reste, la guerre, les étoiles, la science et la fiction. Alors, on est l'archétype, justement, de la machine buggée qui s'est mise à faire tout autre chose que ce qu'elle avait à faire, ce qui génère une grande angoisse. Pour moi, l'être humain est un singe en colère, c'est pour ça qu'il est aussi hargneux. Eh ben moi, mon angoisse, c'est pas du tout le panopticon. Moi, c'est l'immortalité. J'ai même fait un bouquin dessus, et pas qu'un. C'est actuellement... je pensais pas que ça viendrait si vite. Moi, j'avais placé ça en 2324. On a quand même des gens comme Ray Kurzweil, qui est le DSI de Google, et autres, qui sont des transhumanistes, et dont le but, c'est clair, est d'arriver à l'immortalité. D'une manière ou d'une autre, soit en se plaudant dans un support tout neuf, moi j'ai songé à un clone élevé juste pour ça, soit en arrivant à régler ce foutu problème des télomères qui fait que nos corps vieillissent, ou alors en se greffant à l'infini des organes tout frais clos dans des bocaux. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont à fond dessus. Google est en train de racheter la totalité des laboratoires d'Oxford, du MIT, bon. Et là, ça veut dire tout simplement qu'il y a une justice et une seule en ce monde, entre les riches et les pauvres, c'est la mort. Et c'est indispensable, même si moi non plus, j'ai pas envie de mourir. À un moment, il faut laisser la place au suivant. Tout simplement parce qu'une cartographie mentale, elle peut pas évoluer plus que ça. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où on se retrouve dans une situation dictatoriale abominable, c'est tout simplement qu'il y a une grille figée et qui vieillit mal, qui s'adapte pas à l'évolution. Que ce soit la Bible, le Coran ou Das Kapital, le gros problème, c'est quand on essaye d'appliquer une Bible rigide et non évolutive sur une population mouvante, on aboutit toujours à un moment où il faut faire rentrer dans une vieille grille une population qui évolue, et le réflexe, ben, c'est de couper ce qui dépasse. Et par exemple, je pense à l'apartheid. Le gros problème de l'apartheid, c'était quoi? C'était des Afrikaners qui refusaient absolument de changer leur grille, laquelle datait du XVIIe siècle. Donc à un moment, ça n'a juste plus correspondu au monde tel qu'il avait évolué. Donc si on se retrouve d'ici peu de temps avec tous les maîtres du monde, parce que l'immortalité, c'est pas pour vous ni pour moi, hein, c'est comme l'a dit Gilles Dumay, l'amélioration de l'humanité, c'est pas pour améliorer l'humanité, c'est pour améliorer les riches. Si jamais, par malheur, tous les gens qui nous dirigent actuellement, dans 200 ans, on les a toujours les mêmes, pareil, et dans 400 ans, c'est encore et toujours les mêmes, ça va devenir un enfer total. Et ça, ça me fait peur, parce que à chaque fois que je fais de la science-fiction, je m'aperçois que je suis rattrapée, non pas en 200 ans, mais en 2 ans et demi. Et ça, ça m'angoisse pas mal.
Vugueur et vu le nombre de spectateurs qu'on a, est-ce qu'il y a des questions ? Théoriquement, il doit y avoir quelqu'un au fond qui possède un petit micro. Voilà. Si vous êtes gentil, au bout des allées, faites passer le micro jusqu'à la personne. Comme ça, on va s'arranger. Ça évitera des collisions.
C'est une question très courte. Comment est-ce qu'on fait après avoir une vision globale comme ça pour continuer à vivre heureux ?
On peut pas. Le bonheur, comme il disait, est affaire de médiocre et use le cœur. Bon, c'est un peu exagéré, mais on peut pas. On n'a pas notre boulot, c'est pas d'être heureux. On peut être heureux peut-être quand on est jeune et encore. Je crois que c'est surtout un fantasme de vieux. Yourcenar, elle disait, moi, l'amertume d'être un être humain m'a définitivement submergée à 50 ans. Voilà. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Et moi, mon propos, c'est pas d'être heureux, c'est plutôt d'avoir les yeux ouverts.
Moi, je suis pas d'accord.
Moi non plus, mais bon.
Je trouve qu'on peut parfaitement être heureux, mais par contre, c'est jamais un état permanent.
Mais il y a une chose, c'est on peut vivre dans la joie. La joie, c'est quelque chose que l'on peut atteindre. On n'est pas forcé d'être heureux, mais la joie, c'est quelque chose. Non, c'est important philosophiquement parce que c'est Spinoza qui l'a dit. C'est-à-dire que.
Et alors ?
Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que après avoir expliqué comment on doit avoir un bon gouvernement. Hein, faire quelque chose, et c'était les fondements de la démocratie. Ensuite, dans l'éthique, il a dit, mais tout ça, pour avoir un bon gouvernement, pour que ça fonctionne bien, il faut que les humains en finissent avec les passions tristes. Et donc, la joie, il faut le travail sur soi-même, être non pas heureux, mais de vivre dans la joie, c'est ce qui peut permettre d'avoir un bon gouvernement.
Ouais, d'accord. Enfin, bon... Moi, j'éprouve une certaine joie à écrire des bouquins noirs et pessimistes. Mais j'éprouve aussi de purs moments de bonheur en étant juste dans mon jardin, sous mon pommier, dans mon hamac, à rien faire. Et en n'étant pas connecté. Et je n'ai pas encore connecté le pommier ni le hamac. Mais atteindre le bonheur, c'est comme, chercher la source de jouvence ou la jeunesse éternelle. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est juste quelque chose qu'on peut vivre sur l'instant. Et quand on reconnaît cet instant, eh ben profiter au maximum, parce que ça dure jamais. Voilà.
Complètement d'accord. Juste sur le plaisir, en société de contrôle, ce qui est fabuleux et qui apporte beaucoup de bonheur, c'est fuir. Voilà. C'est fuir. C'est la furtivité. Donc moi, j'adore ça. Ça va être mon prochain livre. J'ai beaucoup de plaisir à fuir, à échapper aux mailles du système, à trouver les trous et les failles, les brèches, être dans l'interstice. Et c'est un grand bonheur notre présent, en fait.
Alors, moi, j'avais plusieurs choses à dire. Alors, par rapport aux propos de Catherine Dufour sur le fait que Google souhaitait vendre l'immortalité. Alors ça, c'est un projet sur le long terme, mais déjà à court terme, ils possèdent déjà un ensemble de services, un ensemble énorme de services, et je pense que premièrement, ils vont obtenir le monopole des services sur Terre, être plus ou moins le fournisseur principal de tout genre de services. Et donc, y a un deuxième truc qui va par rapport à ça, c'est que effectivement, les GAFA, c'est des entreprises américaines. Et que malgré le fait que le web soit décentralisé, 50% des data centers mondiaux sont situés aux États-Unis, ce qui leur donne donc un pouvoir politique vraiment très important sur le reste du monde. Le service de géolocalisation le plus utilisé, c'est GPS, qui est complètement américain.
Voilà. Et par rapport à un truc qui se passe en France, le fait que la loi renseignement passe il n'y a pas longtemps, et qui d'ailleurs a fait réagir à peu près personne, vraiment, ça a permis deux choses. Premièrement, l'abolition de la vie privée, et donc ça a été accepté par les citoyens. Et deuxième chose, la présomption de culpabilité, parce qu'en gros, on part du principe que tout citoyen est potentiellement une menace pour l'État. Et je trouve que c'est assez malsain de partir de ce principe. Voilà.
On va prendre une toute dernière question rapide.
Alors, je suis désolé, ce ne sera ni une question et ce ne sera pas rapide. Ce serait plus une remarque. Par rapport à ce qui a été dit concernant les nouveaux types de contrôles qui ont été mis en place par le monsieur, j'ai oublié le prénom, enfin le nom, avec les lunettes au milieu. Oui, vous.
Olivier Paquet.
J'ai oublié. Vous disiez que le contrôle avait déjà été effectué il y a plusieurs siècles de différentes manières. Vous avez pris en exemple le Japon, si je me souviens bien. Mais il y a une différence fondamentale que je trouve qui est effectuée maintenant, c'est que jusqu'ici, les contrôles qui ont été effectués sur les populations étaient surtout faits de manière coercitive, à effrayer les populations pour afin de les contrôler et gérer leur vie. Mais le contrôle que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus axé sur, comme l'avait dit, je crois, M. Damasio, sur nos désirs et sur notre fainéantise intellectuelle et sur le reste. Donc je trouve que c'est un contrôle qui est radicalement différent et sur lequel nous n'avons finalement beaucoup moins de prise. En limite, un pouvoir coercitif, on est beaucoup plus enclin à agir contre lui. Et je trouve ça justement extrêmement, comment dire, pernicieux, la façon dont c'est fait, le fait qu'on ait du mal à se passer, par exemple, de trucs complètement superflus, style Facebook et le reste, qui sont souvent des trucs très narcissiques. Et par rapport à ça...
Non, juste sur ce point-là, j'ai l'autre exemple sur l'étiquette, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire l'étiquette n'est pas coercitive dans le sens policier, mais chacun y a intérêt pour sa propre représentation et sa place dans la société. C'est la même chose sur la société de consommation. On est ce que l'on achète aussi. Donc les désirs, etc., nos traces, ce qu'on achète, ce qu'on porte, etc., c'est ce que l'on est. C'est la même chose avec l'étiquette, ce que l'on représente, le contrôle que l'on a du corps, c'est aussi notre insertion dans la société, c'est comment nous sommes reconnus comme existants. C'est le film aussi, Patrice Lecomte, Ridicule, c'est-à-dire l'esprit, etc., si on l'a pas, on existe. Si on n'a pas cet esprit, on n'existe pas, on est hors de la société, on est isolé et on décline. Donc ce contrôle existe, l'étiquette est aussi du même tonneau, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça renforce, ce contrôle renforce notre position dans une société. Et c'est la même chose avec la société de consommation. La consommation renforce notre position parmi nos amis. C'est aussi un effet de reconnaissance. Si j'ai une casquette, je sais pas moi, Calvin Klein ou peu importe, je suis reconnu parmi mes amis comme étant celui qui a acheté, j'ai la même chose que les autres. C'est le même chose. Et c'est un contrôle. C'est un contrôle. Et qui n'est pas coercitif. Mais c'est notre représentation dans la société.
On va s'arrêter là, puisque le temps qui nous était imparti vient de s'écouler. Tous les auteurs seront en dédicace théoriquement juste après cette conférence, et on vous souhaite une bonne fin de festival.